Première épître de Jean, alors nous reprenons au chapitre 2, versets 7 à 11. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commencement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen.
Amen.
Bien-aimé, nous voyons là, n'est-ce pas, combien le cœur de cet apôtre, et cela le Saint-Esprit a voulu le conserver, combien le cœur de cet apôtre vraiment est porté à l'amour et à considérer les membres de l'Église comme précieux, comme chers à son cœur. Bien-aimé. Nous voyons et nous allons voir, bien sûr, nous l'avons déjà vu, mais nous allons le voir se confirmer, c'est que l'épître, cette épître est une épître de l'amour. C'est une épître qui presse l'Église d'aimer et qui fait de l'amour le, comment dirais-je, l'œuvre centrale, l'œuvre d'où dépend tout. Vous savez que le Seigneur Jésus l'a enseigné cela, n'est-ce pas ? Le commandement, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. Et puis, tous les autres commandements dépendent de celui-là. Il y a en somme là, n'est-ce pas, une pyramide. Au sommet de la pyramide, c'est le commandement d'amour, la loi d'amour, qui est effectivement, n'est-ce pas, la loi centrale de la vie. Et tous les autres commandements découlent de celui-là. Eh bien, l'apôtre Jean en est imprégné de cela et il va nous montrer vraiment ce que l'amour, ce dont l'amour est capable et que nous inviter à exercer l'amour de Dieu. Il s'agit de l'amour de Dieu, n'est-ce pas, dans l'Église. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Pourquoi Jean dit-il cela? Eh bien, le contexte de l'épître nous renseigne, ben, il y a des antichrists, il va y venir dans ce même chapitre 2, il y a des faux prophètes, des faux docteurs dans le chapitre 4, et ces gens-là, n'est-ce pas, étaient préoccupants pour l'apôtre, ils étaient préoccupants pour l'Église en général, vers la fin du premier siècle surtout. Alors, les faux prophètes dont va parler cet épître prétendaient apporter du nouveau. Car les chrétiens, insuffisamment affermis, je veux être convenable, je ne veux pas dire mal affermis, je dis insuffisamment affermis, sont toujours attirés par ce qui est nouveau. On recherche la découverte. On est là, n'est-ce pas, aux aguets de ce qui va pouvoir être dit quelque part, être prétendu quelque part et qui va être nouveau. Et c'est toujours ainsi maintenant. C'est un mal, c'est un danger, chers amis. C'est un danger. Hein. C'est une découverte de notre garde, de notre sécurité. Enfin, nous allons au-devant du péril lorsque nous recherchons la découverte. Ah, y a-t-il quelqu'un qui vient avec un principe nouveau, avec une pratique nouvelle, avec même une forme nouvelle de doctrine? Oh, ça se rattache bien à la Bible, à l'Évangile, mais c'est nouveau, n'est-ce pas? L'attrait du nouveau. Et les chrétiens insuffisamment affermis, ainsi attirés vers le nouveau, ne sont pourtant pas ceux qui ont déjà utilisé ce qu'ils avaient reçu. Ils n'ont pas mis en pratique ce qu'ils avaient reçu. S'ils avaient mis en pratique ce qu'ils avaient reçu, c'est tellement heureux qu'ils ne chercheraient pas quelque chose de nouveau. Les faux prophètes étaient en somme des gens de la classe des progressistes d'aujourd'hui. Les progressistes, c'était des novateurs. Répondre aux désirs du public et tout modeler aux tendances du jour, telle a été de tout temps la complaisance des faux prophètes, et c'est là-dessus qu'ils ont compté pour obtenir du succès. Ils se conforment aux tendances du jour, ils apportent aux gens ce qu'ils désirent, n'est-ce pas? Y a-t-il, par exemple, une aspiration vers le mysticisme? Eh bien, ils vont vous en apporter du mysticisme. Y a-t-il, au contraire, une aspiration vers une certaine liberté, des conceptions de liberté? Ils vont vous apporter cela. Ils ont toujours dans leur sac, n'est-ce pas, ce qui plaît à la foule. Les idées humaines, certes, sont mouvantes. Il y a des forces qui se jettent surtout de notre temps, n'est-ce pas, sur ce monde, et qui font évoluer les idées du monde. Et alors, d'aucuns obtiennent un succès en s'adaptant au mouvement des idées. Pourtant, c'est là un chemin pernicieux, un chemin de perte. C'est un chemin de perte pour les chrétiens. Jean écrit le commandement ancien, c'est-à-dire celui que les croyants ont reçu dès le commencement. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, il veut dire je ne suis pas comme ces novateurs qui vont vous apporter du nouveau, ne prenez pas mon épître comme étant quelque chose qui puisse satisfaire un désir de nouveau, si jamais vous l'avez. Non, sachez que je ne suis pas sur la ligne des faux prophètes, je vous apporte un commandement tout à fait ancien. Un commandement qui est connu, ce n'est pas de l'inédit que je vous apporte, mais c'est quelque chose que vous connaissez, que vous avez su dès le commencement. Et je rappelle que ce commencement, pour les chrétiens, c'est le moment où l'Évangile les a touchés, où ils se sont convertis au Seigneur. Le commencement de la vie nouvelle, c'est ça le commencement. Ce commandement ancien n'est autre, dit Jean, que la parole que vous avez entendue. Dans le grec, il y a une répétition. Ce commandement ancien, commandement qui est la parole que vous avez reçue, c'est la parole que vous avez entendue, et qui vous a, bien entendu, amené là où vous êtes, c'est-à-dire dans la position d'un enfant de Dieu. On ne peut avoir eu de commencement, c'est-à-dire de nouvelle naissance, que par l'action de la parole de vérité. Comme le rappelle l'apôtre Jacques, Dieu nous a engendrés par la parole de vérité, et cette parole de vérité, nous dit Jacques, eh bien, vous en avez toujours besoin, elle est là, au milieu de vous, vous avez besoin de cette parole. C'est cette vérité entendue dès l'abord qu'il importe de garder. Nous pouvons dire que nous sommes liés à la parole que nous avons entendue. Et vous allez voir que c'est bien ce que dit le Seigneur lui-même et ce que va dire le Seigneur après Jean. Et le Seigneur lui-même considère tellement le danger que font courir à l'Église les novateurs, les progressistes, que lui-même va intervenir par sa parole après coup, dans l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, en effet, au chapitre 2, vous savez que ce sont là des textes dictés par Jésus à Jean, au chapitre 2 et au verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Vous voyez, les premières, c'était les bonnes, ça. « Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de ta place, à moins que tu ne te repentes. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Puis, au chapitre 2 et au verset 25, là, nous sommes dans la quatrième lettre, celle à l'église de Thyatire, cette église où il y a une certaine Jézabel qui prêche une fausse doctrine. Alors, seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Voyez-vous, le Seigneur disait, je ne mets pas d'autre fardeau sur vous, mais ce que vous avez, retenez-le. Ce que vous avez reçu, retenez-le. Nous avons aussi 3:3, chapitre 3, verset 3. Nous sommes là, dans la lettre à l'église de Sardes. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Voilà ce que dit le Seigneur. Rappelle-toi comment, au commencement, à ton commencement à toi, parce que ton commencement à toi, ça se relie au grand commencement. Ça se relie, n'est-ce pas, à l'apparition du dernier Adam, à l'ouverture du royaume de Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu, hein, quelle était la parole que tu as reçue et entendue, et garde-la, cette parole-là, et repens-toi de l'avoir abandonnée ou d'être, d'en être distrait, n'est-ce pas? Voyez-vous, c'est le conseil du Seigneur. Et chapitre 3, versets 10 et 11. « Que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Attention, il y a des gens qui vont essayer de te prendre ta couronne, comment vont-ils faire? Ils vont te détacher de la parole que tu as reçue au commencement, et ils vont t'amener sur autre chose. Hein, les novateurs. Attention à cela. Et même Jean, dans sa première épître, là, celle que nous étudions, n'est-ce pas, va, lui, au chapitre 2, et chapitre 2, oui, et verset 27, il va nous dire, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, ne vise pas l'enseignement dans l'église, là. Il vise, n'est-ce pas, l'enseignement venu du dehors, de ces novateurs, de ces progressistes. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Gardez ce que vous avez reçu, parce que, au début, eh bien, ce que vous avez reçu, c'est bien la parole de vérité. Vous ne seriez pas devenu enfant de Dieu si la parole de vérité n'avait agi en vous. C'est bien elle, et par conséquent, vous pouvez vous fier à elle. Or, aujourd'hui, chers amis, nous sommes encore dans sous l'action de ces gens, n'est-ce pas, qui se font progressistes, novateurs, des choses nouvelles. Ils nous parlent de choses nouvelles, évidemment, qui ont rapport avec la foi, avec l'Évangile. Baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas, alors autour du baptême du Saint-Esprit, on nous fait un tas de choses. Un tas d'histoires, n'est-ce pas? Et que nous dit-on ou qu'écrit-on? Ce que je n'ai jamais pu avaler, ce que je ne veux pas, n'est-ce pas, avaler, ce que je dénonce fortement, n'est-ce pas? J'ai lu textuellement ceci. Vous avez besoin d'abandonner vos a priori et d'ouvrir un petit peu les oreilles à quelque chose de neuf, de nouveau. Vous avez besoin qu'on vous parle, n'est-ce pas, un langage nouveau. Vous n'êtes pas comme il convient, etc. Chers amis, mais ça, c'est l'action de la fausse prophétie. C'est une action pernicieuse. Abandonnez vos a priori, ça veut dire abandonner, n'est-ce pas, ce que vous saviez jusqu'ici, ce sur quoi vous étiez établi dans votre vie chrétienne. Mais c'est abominable, cela. N'est pas ça qu'il faut dire aux chrétiens, n'est-ce pas? Au contraire, nous dit la parole, gardez ce que vous avez reçu. Et si vous devez, n'est-ce pas, vraiment, vous voulez grandir dans la vie chrétienne, eh bien, il faut vous repentir et revenir à ce que vous aviez reçu au commencement. C'était ça qui était bon. Bah, rappelez-vous comment la parole de Dieu, la parole de vie a agi en vous, et reprenez cette parole de vie. Elle est la vérité. C'est elle qui est la vérité. Alors, chers amis, ça, je l'ai lu, n'est-ce pas? Je l'ai lu, et je l'ai même entendu, et je le dénonce comme étant exactement, n'est-ce pas, cette doctrine pernicieuse que combat ici l'apôtre Jean. C'est pas, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas d'action dans le monde, il a des actions, mais laissez Dieu faire, laissez Dieu agir. Nous sommes pas à sa place, n'est-ce pas? Si nous voyons qu'il agit à côté de nous, autour de nous, nous en réjouirons. Mais nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de prêter l'oreille à toutes sortes de nouvelles qui nous viennent du monde et qui sont plus ou moins déformées d'ailleurs, n'est-ce pas? On nous en donne que ce qu'on veut bien nous en donner, n'est-ce pas? Et puis on nous dit, voyez comment ça se passe maintenant, c'est tout différent. Il n'y a plus de nouvelles d'essence. Ben, les gens, quels qu'ils soient, dans la rue comme ça, pop, ils sont baptisés de Saint-Esprit parlant langue. Ça y est, voilà comment on devient chrétien. Magnifique, n'est-ce pas? Eh ben alors, laissez donc vos a priori, venez à ça. Laissez donc cette idée que vous aviez de la nouvelle naissance, il fallait naître de nouveau, se repentir. Laissez donc tout ça. Voilà, n'est-ce pas? Ce à quoi on nous invite, et ça... C'est l'œuvre de l'ennemi. Il y a ce prédicateur anglais qui n'a pas eu peur en France de venir dénoncer ça, et j'en suis heureux. Par la parole que nous avons reçue, Dieu nous a donné le pardon, il nous a donné la vie. Notre cœur doit conserver cette parole, c'est elle qu'il nous faut vivre. Nous n'avons qu'à revenir à elle pour la vivre. Nous avons certes encore beaucoup de choses à apprendre, mais c'est de la Bible que nous allons les apprendre. Ce n'est pas des discours de tous ces messieurs, n'est-ce pas ? Discours plus ou moins intellectuel ou plus ou moins mystique, nous allons apprendre ça de notre Bible et de l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, dans le monde il sera à l'œuvre pour nous aussi, si nous sommes sincères et droits devant Dieu. L'Esprit de Dieu sera à côté de nous, là on n'a pas besoin d'aller le chercher quelque part, n'est-ce pas ? S'il est répandu, on rappelle qu'il est répandu sur toute chair, sur la nôtre aussi. Eh bien, nous n'avons qu'à nous ouvrir à l'Esprit de Dieu, c'est tout, n'est-ce pas? Et puis, alors, surtout nous attacher à sa parole. Seulement, n'est-ce pas, dans ces rencontres charismatiques, quand on nous dit que ces gens-là ont un goût nouveau, tout nouveau, ces catholiques notamment, pour la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de vrai là-dedans, n'est-ce pas? Mais quand on leur prend la parole de Dieu et qu'on leur parle de repentance et qu'on leur parle de naître de nouveau, n'est-ce pas? Il n'y a plus personne. Ils prennent, oui, ils ont un intérêt pour la parole de Dieu, un intérêt sentimental, un intérêt mystique. Ils en prennent ce qui leur plaît. Mais si on leur parle, n'est-ce pas, de se convertir à Jésus-Christ, vraiment, alors là, tout le monde s'en va, hein, tout le monde se tait. Notre problème de chrétien, ce n'est pas de recevoir du nouveau, c'est de mettre en pratique. Nous veut nous dire, n'est-ce pas, cet apôtre, de mettre en pratique l'ancien, ce qui était ancien. Nous ne l'avons pas mis en pratique, ou si nous l'avons mis en pratique, eh bien continuons de le faire. L'évangile est une puissance. Jésus vit. L'évangile tel qu'il est, dans son intégralité, est la parole de vie. Nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne du dehors autre chose, quelque chose de nouveau. Voilà ce que l'apôtre nous dit ici. Et puis, au verset 8, il nous dit « Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. » Il faut bien dire que c'est assez nébuleux. Il n'y a que, en se penchant sur le texte grec, qu'on peut y voir un peu clair dans la pensée. C'est tellement concis que ça devient difficile, n'est-ce pas, à pénétrer. Actuellement, c'est un de ces versets, il y en a comme ça dans l'Écriture, n'est-ce pas, qui sont plus difficiles à pénétrer. Dans l'apôtre Paul, il y en a aussi. Mais enfin, nous allons essayer quand même de nous tirer d'affaire. Il semble qu'il y ait une contradiction, et d'ailleurs il dit toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Alors qu'il nous disait, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. Pas dans le verset précédent. Bon. Mais dans l'Écriture, on aime bien ces oppositions. Notez que Paul dit, n'est-ce pas, que chargez-vous des fardeaux les uns des autres, n'est-ce pas, de vos fardeaux. Puis après, il dit que chacun porte son propre fardeau. Vous voyez, on aime bien, n'est-ce pas, ces oppositions. Ça vient de l'esprit, disons, hébraïque. Jean mentionne ici une présence de Christ, d'un Christ qui agit. Ça, il veut dire ceci, il y a un commandement ancien. Et ce commandement ancien, vous le trouvez dans une écriture que vous avez là, à votre disposition. Elle n'est pas une chose nouvelle, l'écriture, elle est une chose déjà ancienne. Bien. Mais, si vous voulez bien reconsidérer ce que vous dit le commandement ancien, c'est-à-dire l'écriture ancienne, la parole ancienne que vous avez reçue, si vous considérez ce qu'elle vous dit, vous verrez que c'est un commandement nouveau dedans. Bien qu'elle soit ancienne, il y a dedans un commandement nouveau.
un commandement nouveau, à savoir, n'est-ce pas, on peut emprunter à Paul l'expression de ce commandement nouveau, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et ça, si vous considérez cette parole ancienne, attention, elle n'est pas morte. Elle vous met en relation avec un Christ qui vit, qui agit. Hein? Et ce qui est nouveau, ce qui est actuel, vous voulez du nouveau, vous voulez de l'actuel. Mais faites vivre ce qui vous vient du commandement ancien et qui va être pour vous quelque chose de nouveau puisque c'est actuel, n'est-ce pas? Voilà l'idée. Le commandement nouveau est une réalité, en somme, actuelle. Christ s'exprime dans votre vie. Il est là, présent, et il s'exprime dans votre vie. Ça, c'est du nouveau. Et ce sera du nouveau, ce sera encore demain, ce sera autant que vous le voudrez par la foi. Ça existera demain, après-demain. Voilà, si vous voulez du nouveau, le voilà, nous dit l'apôtre. Christ en vous. Hein? C'est ça qui est nouveau. Et c'est ça qui vient de l'ancien. Ça vient de l'ancien et c'est nouveau. Ainsi, la parole entendue et reçue a elle-même son actualité. Ce n'est pas la peine d'aller chercher une originalité quelconque, n'est-ce pas? Il y a dans la parole qui est ancienne, il y a une chose actuelle, une chose qui se fait actuelle, parce que l'Évangile est une puissance. L'Évangile est une puissance qui est toujours prête à agir. Elle est ancienne, cette parole, mais le fait qu'elle agit en vous, eh bien, en fait d'elle un commandement tout neuf. C'est tout neuf, n'est-ce pas? Le fait qu'elle agit en vous. Voilà ce qu'il faut regarder comme nouveau, en somme, veut nous dire l'apôtre, n'est-ce pas, dans son conseil. Vous voulez regarder du nouveau? Eh bien, regardez comme nouveau Christ en vous, l'espérance de la gloire. Regardez ça. Ben, voilà ce que vous allez regarder comme nouveau, c'est ce qui est actuel. Y a-t-il en vous un désir de voir et d'entendre quelque chose de nouveau? Eh bien, la parole annoncée répond à ce désir, car elle porte cette puissance qui actualise la vie de Christ en vous. Christ est maître de votre cœur, il est maître de votre vie, voilà le fait actuel qui exclut tout recours à l'esprit de découverte, n'est-ce pas, et l'esprit d'imagination. Vous n'avez pas besoin de toutes ces choses, n'est-ce pas, mauvaises qui viennent du dehors. Vous avez là la chose présente, actuelle, toute neuve, Christ est en vous. Et il dit, car les ténèbres se dissipent, et la lumière véritable paraît. L'Église est la communauté de la lumière, et par son extension, par son témoignage, les ténèbres du monde se dissipent. Du temps de Jean, n'est-ce pas? C'était ça, les ténèbres se dissipaient, puisque l'Église s'agrandissait. Hein, de notre temps, ça se referme. Et oui, le jour baisse, n'est-ce pas? Le Seigneur nous a dit qu'à la fin, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le jour qui baisse et c'est la nuit qui vient. Pendant qu'il fait jour, travaillons encore, n'est-ce pas? Mais la nuit vient, les ténèbres viennent. Enfin, nous sommes, voyez-vous, à l'autre bout de la dispensation. Alors, du temps de Jean, déjà au premier siècle, n'est-ce pas, ça faisait d'énormes progrès. Le christianisme s'étendait, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Ici, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà, comme la lumière avait jailli sur les bords du lac de Génézareth. Alors là, elle jaillit, elle s'étend dans le monde, mais aujourd'hui, nous sommes dans le mouvement inverse. D'ailleurs, n'est-ce pas, les chrétiens étaient bien vus comme étant la lumière du monde. Il y a aussi, n'est-ce pas, un mot de l'apôtre Paul, dans la première aux Corinthiens, qui est un peu à mettre en équivalence de ce que dit Jean ici, les ténèbres se dissipent, et Paul disait, la figure de ce monde passe. Hein? Mais actuellement, n'est-ce pas, le monde reprend une figure terrible, épouvantable, n'est-ce pas, et qui se généralise sur toute la terre. La figure de ce monde passe. L'Église est le terrain où l'amour de Dieu entend s'exercer. Elle est le lieu de l'amour et la lumière véritable, qu'est-ce donc que cette lumière qu'apporte l'Église, c'est l'environnement spirituel de la vie divine. Je ne dis pas c'est la vie, n'est-ce pas? C'est l'environnement de la vie de Dieu, de la vie divine, dans cet environnement, la lumière de Christ. Quand quelqu'un vit, il y a de lui une lumière. S'il vit la vie divine, s'il vit la vie de Christ, Il rayonne une lumière qui n'est pas de celle qui atteint les yeux, mais de celle qui est sentie par les cœurs. Et alors, verset 9, « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. » Dans l'Église, il y a une chose qui devrait être absolument exclue, c'est la haine. La haine devrait être une chose impossible dans l'Église. Et l'homme qui prétendrait être dans la lumière, c'est-à-dire être un chrétien, un vrai chrétien, et qui pourtant haïrait son frère, nous dit Jean, serait en réalité en pleine ténèbre. Il est encore dans les ténèbres. Il n'est pas sorti des ténèbres. Il est dans les ténèbres, cet homme-là. Il serait de la terre et il n'aurait rien à faire avec le royaume des cieux. Mais, n'est-ce pas, nous pouvons réfléchir à ce verset et puis nous dire ceci, mais haïr quelqu'un, c'est gros, ça. Hein, un sentiment dur, violent. Hein, tandis que entre vraiment ce sentiment dur et violent et puis l'amour, il existe quand même toute une gamme de sentiments, qui vont de la froideur glaciale à la sympathie occasionnelle. Hein. Voyez-vous, sans haïr, on peut ne pas aimer quelqu'un, ne pas le juger sympathique, ne pas aimer se trouver avec lui, n'est-ce pas? Bon. Et puis, alors, l'amour lui-même, sans aimer véritablement, peut juger quelqu'un assez sympathique, n'est-ce pas? Alors, on a ses têtes, comme on dit, n'est-ce pas? On a ses sympathies, n'est-ce pas? Puis, on a ces gens qu'on n'aime pas, enfin, on ne l'est pas, bien sûr. Mais enfin, on est en froid, n'est-ce pas? On ne sent rien à leur égard. Ou alors, des gens avec qui on est un peu en froid parce qu'il y a eu des petites blessures, il y a eu des petites disamies entre nous, n'est-ce pas? Alors, est-ce que l'apôtre ignore ces nuances, n'est-ce pas? Parce qu'il nous parle de haine et il nous parle d'amour. Enfin, si on hait quelqu'un, on est dans les ténèbres, tandis que si on l'aime, on est vraiment, on l'aime avec l'amour de Dieu, on est dans la lumière. Mais l'apôtre n'a pas à considérer ces nuances, cette gamme de sentiments, tout cela, ce sont choses de la terre. Parce que, selon l'Écriture, n'est-ce pas? Et selon la pensée de cet apôtre, toute absence d'amour est considérée comme la haine. Et c'est bien ce que Jésus a dit. Enfin, toute absence d'amour est considérée comme la haine. La haine n'étant pas toujours ce sentiment violent dont je parlais. Nous en avons vraiment la notion dans le sermon sur la montagne, en Matthieu 5, verset 23. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu te sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. » Et là, le Seigneur, n'est-ce pas, nous dit, si tu viens, n'est-ce pas, tu vas à l'autel, ça c'est ce qui caractérise, n'est-ce pas, l'offrande à Dieu, la piété. Ça. Tu exerces ta piété. Puis tout à coup, n'est-ce pas, tu te souviens, il y a dans une pensée qui te vient, ou que Dieu va te remémorer, n'est-ce pas, une chose qu'il va te remémorer, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Il ne s'agit pas de la haine ici. Et ton frère a quelque chose. Et c'est peut-être lui qui a tort, ton frère. Toi, tu avais peut-être raison dans ce quelque chose, n'est-ce pas? Pourquoi a-t-il quelque chose contre toi? Toi, tu n'as peut-être rien. Mais attention, il a quelque chose. Lui, il a. Tu ne peux pas laisser subsister ça. Tu ne peux pas continuer à exercer comme ça tranquillement ta piété te croyant agréé de Dieu, te croyant béni de Dieu, non, arrête un peu. Va d'abord trouver ton frère, et puis mets la chose au clair, n'est-ce pas? Tu ne vas pas, évidemment, entreprendre avec lui toute une discussion, tout un examen détaillé des affaires qui ont pu causer une petite inimitié entre lui et toi, ou un désaccord, n'est-ce pas? On ne va pas essayer de régler les choses humainement, non. Tu vas lui dire, frère, n'aie rien contre moi, je t'aime, s'il y a quelque chose à faire pour réparer, pour que tu n'aies plus rien, je suis prêt à le faire. Voilà, n'est-ce pas, c'est tout ce qu'il va falloir faire à l'égard de ce frère qui a quelque chose. Et ça, le Seigneur me l'avait montré il y a bien des années, n'est-ce pas, je devais quitter certains frères, n'est-ce pas, le Seigneur me dit, bon, eh bien, oui, il faut s'en aller, il faut faire autre chose. Bon, le Seigneur me guide autrement. C'était des gens qui ne voulaient pas du tout des dons spirituels et ils ne voulaient pas du Saint-Esprit, des dons spirituels. Et moi, avec quelques-uns, nous étions en plein, n'est-ce pas, dans ces dons spirituels et ce Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous avions la conviction qu'il nous fallait tout cela. Et alors, eux n'en voulaient pas du tout. Bon, alors, il y avait par conséquent à se séparer. Et alors, Dieu me dit de partir. Eh bien, je dis, c'est très bien, alors nous partons. Bon, c'est parfait, mais Dieu, attention, il faut aller les voir. Il faut aller les revoir. Et puis, tu vas leur demander pardon. Quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai demandé pardon. Mais j'aurais rien fait, moi. C'est eux qui m'ont fait quelque chose. Et ils nous ont fait des ennuis, n'est-ce pas? Ils avaient même très mal agi. Puisqu'ils avaient ridiculisé même le parler en langue. Voyez-vous? Alors là, ça avait été, n'est-ce pas? Il y avait un missionnaire qui avait fait ça. Bon. Il avait imité un parler en langue comme ça, n'est-ce pas, pour le ridiculiser, puis nous montrer que personne n'y comprenait rien, il avait fait rire tout le monde avec ça. C'était vilain. Hein, ça nous avait hautement choqués, n'est-ce pas? Bon. Alors je dis au Seigneur, mais c'est eux. Oui, mais ils ont quelque chose contre toi, parce que va les voir et puis répare. Et j'y suis allé. On s'est embrassé, tout le monde s'est embrassé avec ma femme, tout le monde, là, on a embrassé tout le monde. On n'a laissé aucun, n'est-ce pas, sans l'embrasser, puis on leur a dit, voilà, nous sommes en paix ensemble, il faut que nous soyons en paix, vous pensez d'une manière, bon, eh bien, ça, vous êtes libre, et nous pensons d'une autre, sommes libres aussi, et nous sommes restés en bon terme, quoique séparés, n'est-ce pas, oui, c'est ce que voulait le Seigneur. Eh bien, donc, nous voyons ici, n'est-ce pas, que le Seigneur attache un petit désaccord, il ne dit pas si le désaccord est grand, profond, un petit désaccord, n'est-ce pas, il attache une importance très grande parce que cesse ta piété, cesse de manifester en somme l'amour pour Dieu par la voie de la piété, n'est-ce pas, si tu as un désaccord, va le réparer d'abord. Par exemple, ne pas tenir compte de son frère, agir comme si son frère n'existait pas. Des gens qui font ça, n'est-ce pas, ils se disent, bon ben, je peux pas être vraiment en inimitié avec mon frère, mais je m'occupe pas de lui, je ne le regarde pas, n'est-ce pas? Ne pas tenir compte, se placer au-dessus de lui, alors que l'Écriture dit considérer les autres comme étant au-dessus de vous, eh bien cela, c'est ni plus ni moins haïr son frère selon le sens de l'Écriture. Voilà, c'est pour ça que Jean n'a pas à introduire ici de nuance, n'est-ce pas? Parce que dès que nous mettons une coupure quelconque, pour une raison quelconque, et n'importe quelle coupure, n'est-ce pas, avec notre frère, bien, nous sommes dans la position de celui qui est son frère. Le commandement ancien est nouveau en ce qu'il veut l'amour maintenant et toujours. Jean, rejoindre Jésus-Christ, qui a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 13 et au verset 34, chapitre 13 et verset 34, verset 33 et 34, « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous, vous me chercherez, comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Un commandement nouveau, un commandement qui a trait à la dispensation nouvelle peut-on dire, n'est-ce pas, la clé de la dispensation nouvelle, aimez-vous les uns les autres. Si l'on vit dans la
lumière de Christ. Il est certain que l'amour aura sa place. Dans la lumière, nous recevons l'impulsion de l'amour de Dieu. Et si nous recevons l'impulsion de l'amour de Dieu, nécessairement, nous aimerons tous les frères. Il y a une comparaison que l'on peut faire ici. Notre corps reçoit le sang en toutes ses parties, et le sang circule avec la même force et la même vitesse dans tout le corps. Il reçoit le sang en toutes ses parties par l'action du cœur. Ça, c'est le cœur qui propulse le sang, n'est-ce pas, dans tout le circuit. Eh bien, ainsi l'amour vient de Dieu. L'amour procède de Dieu. Et si nous vivons dans la lumière, en observateur de la parole de Dieu, pour être membre du corps de Christ, alors là, ben je dis bien, si nous vivons dans la lumière, pour être membre du corps de Christ, alors, étant dans le corps, étant membre du corps, n'est-ce pas, le sang va venir, n'est-ce pas, nous irriguer, avec la même force que le sang a dans la tête, par exemple, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans Christ, hein, et ce sang, si vous voulez, je le compare à l'amour, à l'amour qui vient, l'amour donc vient, n'est-ce pas, se répand, circule, vivifie, l'amour vivifie toutes les parties, et par conséquent, si l'on vit dans la lumière, on aime. Et si l'on n'aime pas, c'est la preuve que l'on ne vit pas dans la lumière. Voilà ce que nous dit l'apôtre Jean. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Alors celui-là, il n'y a pas de danger. Vous voyez, c'est admirable, ça, de dire qu'aucune occasion de chute n'est en lui. Alors celui-là, n'est-ce pas, il n'est pas le jouet de la tentation, des convoitises, il est solide. Il est solide. Mais rappelez-vous ceci, nous sommes membres de Christ, membres du corps de Christ. Ça, c'est une démonstration. Bon, ben, alors, nous utilisons la comparaison corps, et nous disons, dans un corps, le sang circule partout et c'est lui qui vivifie toutes les parties. Eh bien, ainsi est l'amour. L'amour de Dieu qui part, n'est-ce pas, de Dieu, qui est en somme, reçoit son impulsion de Dieu, car l'amour est une puissance, reçoit son impulsion de Dieu, et c'est lui qui vivifie tout. Il n'y a pas de vie sans l'amour. Alors il vivifie, et si nous sommes dans le corps, parce que nous gardons la parole, parce que nous gardons les commandements, humblement, avec foi, nous sommes dans le corps, alors nous recevons l'amour. Et si nous recevons l'amour, eh bien tout va bien, n'est-ce pas, nous sommes dans la lumière, nous aimons, nous ne pouvons pas faire autrement que d'aimer. C'est tout naturel, ça devient tout naturel, mais à ce moment-là, alors nous ne sommes pas en danger de chute, il n'y a aucun danger de chute. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Aucune occasion de chute, quand l'amour est reçu et pratiqué, reçu de Dieu et pratiqué, hein, Dieu ne manque jamais, par conséquent, de faire connaître sa volonté, et nos ignorances ou nos résistances venues de la chair s'évanouissent. La pratique de l'amour, en somme, tonifie la foi. La pratique de l'amour tonifie la foi. Quelqu'un peut-il se plaindre qu'il n'a pas de foi? Eh bien, s'il n'a pas de foi, il faudrait peut-être qu'il examine s'il ne s'aime pas un peu trop lui-même, égoïstement, s'il ne voit pas que lui, s'il n'est pas en somme replié sur lui-même, n'est-ce pas, et auquel cas il ne serait pas dans le circuit de l'amour, dans le mouvement de l'amour, n'est-ce pas, il ne serait pas dans ce mouvement de l'amour. Et c'est un défaut que l'on rencontre aussi, chers amis, il faut à toute occasion, n'est-ce pas, les redire. Quand on entend quelqu'un qui vous dit bonjour, on dit bonjour, oui. Puis souvent cette formule, ça va bien, on dit ça, vous savez, finalement un petit peu, n'est-ce pas, ça va bien, on ne pense pas toujours à la santé. Puis alors il vous arrête, il dit, ah ben oui, vous savez, j'ai été malade, mais maintenant ça va beaucoup mieux, et alors on m'a fait ceci, on m'a fait cela, etc. Bon, et puis vous écoutez, n'est-ce pas, votre frère, parce qu'il faut tout de même bien l'écouter, n'est-ce pas, ça fait partie de la charité aussi, ça. Alors vous l'écoutez, n'est-ce pas, et puis alors il vous raconte toute son histoire, il parle de lui. Quand je me suis trouvé dans des occasions comme ça,
j'ai essayé de dériver la conversation et puis de parler du Seigneur Jésus, hein, de revenir, oui, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus, etc. Mais non, l'autre, il revient à son affaire, n'est-ce pas? Et puis, vous n'y pouvez rien, n'est-ce pas? Il vous ramène à ses médecines, à ses médecins, à sa petite, son petit bien-être physique. Il ressent maintenant, ça va beaucoup mieux, etc. Puis il est allé faire un petit voyage, il a fait une petite saison, là. Oh, ça va très bien. Merci Seigneur, monsieur Seigneur, n'est-ce pas? Vous êtes en présence, n'est-ce pas, de quelqu'un qui ne voit que lui, se voit lui-même. C'est un danger, ça, les amis. C'est un danger, un danger. Moi, j'ai pris l'habitude et adopté cette habitude systématiquement. Je ne parle pas de moi ou de ma famille ou de mes affaires. C'est que les autres qui m'en parlent. C'est très bien, merci à eux, n'est-ce pas? Je veux dire, merci beaucoup, ça. Mais je ne vais pas devant quelqu'un dire, vous savez, ah ben, il y a ceci, cela, mes enfants, mon petit-fils, etc., n'est-ce pas? Non, on en parle accidentellement, n'est-ce pas? Si, il y a lieu d'en parler, mais... On ne parle pas de soi. Il ne faut pas, n'est-ce pas, venir parler de soi. Il ne faut pas penser à soi. Il faut penser aux autres. C'est cela qui est vraiment l'amour. L'amour dans la vie chrétienne. Celui qui, faute d'amour, marche dans les ténèbres, ne sait pas où il va, et alors il ne trouve aucune direction. Alors que la parole nous dit, n'est-ce pas, que pour ceux qui marchent vraiment dans l'amour, dans la lumière, alors même à travers ce monde, ils trouvent des sentiers tout tracés. Enfin, les sentiers tout tracés. Le Seigneur fait toujours, indique toujours sa volonté. L'homme qui est ou qui n'aime pas n'est plus le disciple de Christ. L'amour, en somme, est la seule voie qui nous fait approcher Dieu. Et c'est pourquoi, dans 1 Corinthiens 13, je me suis assez triste qu'on fasse dévier souvent, n'est-ce pas, 1 Corinthiens 13 de son véritable sens, sa véritable portée. Et il s'agit de l'amour de Dieu, n'est-ce pas, allant dans les membres du corps et s'exerçant à travers ses membres, par ses membres, de la même manière que l'amour s'exerce à partir de Dieu ou de Christ lui-même, n'est-ce pas? Et pour terminer et conclure, on pourrait dire que l'enfer, c'est de n'avoir été qu'égoïste et haineux et de n'avoir pas su aimer par selon l'amour de Dieu, par la foi. C'est ça l'enfer. Ils ne peuvent pas aimer et ils sont, bien entendu, déjà disponibles pour l'enfer. Amen.